grâce, Seigneur, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bonjour, bienvenue, très heureux de vous accueillir sur Présence, vos rendez-vous habituels. Dans 10 minutes, l'interview du jour avec Isabelle Honnel. Elle sera avec professeur Bruno Velas, gériatre responsable du gérontopole du CHU, pour parler d'une application. Dans 20 minutes, votre sélection télé pour ce soir, sans oublier, en fin d'heure, votre chronique Air du Temps. Vous êtes bien sur votre radio chrétienne, il est midi.
Présence dans le Comminges. 94.1.
La météo.
Pour cet après-midi, il y aura des éclaircies dans l'Occitanie, 16 degrés en moyenne. Demain matin, 11 degrés pour le Lot et dans le Gers, 13 sur la place du Capitole à Toulouse et 14 dans les Hautes-Pyrénées. L'après-midi, des lunettes de soleil seront de rigueur si vous travaillez dans votre jardin. Grand soleil dans l'Occitanie, 17 auprès du boulevard Gambetta à Cahors, 18 à côté de la grotte de Lourdes et dans la Haute-Garonne.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Quand la technologie et la santé des seniors se rencontrent, cela donne l'ICOP Monitor. C'est le nom d'un outil, en l'occurrence une application pour prévenir la dépendance des personnes de plus de 60 ans. Elle a été développée par le gérontopole du CHU de Toulouse en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle est actuellement expérimentée en Occitanie et l'ICOP pourrait être développée très rapidement au reste du pays. On en parle ce matin avec vous, professeur Bruno Velas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le gériatre, responsable du gérontopole au CHU et donc à l'origine de cet outil. Avant de nous le présenter, professeur, on va peut-être recontextualiser le cadre dans lequel il s'inscrit. On parle évidemment du vieillissement, plutôt même du bien vieillir. Et alors, à ce propos, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a cette phrase que je vous donne et sur laquelle je vous fais réagir. L'OMS considère que vieillir en santé, c'est garder ses fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi ?
Donc, c'est une phrase extrêmement importante. Alors, il faut savoir qu'on a un système de santé qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour traiter les pathologies aiguës de l'adulte jeune. Mais ce système de santé n'est pas adapté au vieillissement de la population, d'où l'explosion du nombre de personnes âgées dépendantes en France actuellement. Car en effet, à côté des maladies, ce qu'il faut, c'est pouvoir garder ses fonctions. Et l'OMS a fait un grand programme ces dernières années. Ils ont revu 500 publications d'evidence-based medicine et ils ont permis de repérer 6 fonctions essentielles que sont la vue, l'audition, la mémoire, la mobilité, le bien-être psychique et les réserves nutritionnelles. Il est indispensable de garder ces fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Quelqu'un qui veut continuer à travailler après 60 ans doit pouvoir le faire. Quelqu'un qui veut continuer à aller chercher ses petits-enfants doit pouvoir le faire. Quelqu'un qui veut continuer à écouter la radio, il faut qu'il puisse continuer à le faire.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le vieillissement, c'est pas une fatalité ?
Le vieillissement n'est pas une fatalité. Il y a des pays en Afrique où malheureusement, à cause de la pauvreté, on considère normal de mourir à 50 ans, ce qu'on n'accepterait pas en France. Donc pendant longtemps, on a considéré, on a attribué au vieillissement des choses qui étaient fausses. Je vais vous donner un autre exemple. La maladie d'Alzheimer, pendant très longtemps, on l'appelait démence sénile, oui. Parce qu'on trouvait normal qu'après 70 ans, quelqu'un perde la mémoire. Maintenant, les gens après 70 ans ont une mémoire tout à fait correcte. Et quelqu'un qui perd la mémoire, il a une maladie. Donc souvent, on a confondu des conséquences sociales. Par exemple, dire qu'après 65 ans, on doit absolument arrêter, c'est des définitions sociales, ou alors des pathologies.
Alors vous dites notre système de santé n'est pas adapté, hein, il avait vocation à traiter des pathologies aiguës de l'adulte jeune, d'où une explosion de la dépendance. La dépendance aujourd'hui, en Occitanie notamment, ça représente combien de personnes avec quels symptômes ?
Alors, on peut dire qu'en France, les dépendants lourds, c'est à peu près 1,5 million de personnes. Donc, l'Occitanie, ce serait à peu près 10% de la population dans les 150 000, d'autant plus qu'on est une population âgée. Alors, la dépendance, il faut savoir, c'est quelque chose de grave. Qu'est-ce qui nous fait peur à tous ? C'est pas un jour de mourir vieux. Ce qui nous fait peur, c'est un jour de se trouver dépendant dans une maison de retraite, en sachant que les maisons de retraite font le maximum. Mais on a eu une étudiante en thèse qui s'est faite embaucher dans une maison de retraite pour travailler notamment sur la dépendance, et elle commence sa présentation en disant « Imaginez que vous êtes dépendant, lourd, c'est plus vous qui allez décider quand vous allez vous lever, comment vous allez vous habiller ?» Qu'est-ce que vous allez manger à midi, ni même quand vous allez passer 10 mètres dans le couloir. Donc il faut absolument prévenir cette dépendance.
Si je résume, professeur, vieillir, c'est notre lot commun à tous. Mais par contre, on peut vieillir sans être dépendant, hein, c'est ça ?
Voilà, il faut vieillir en santé.
Il
y a trois catégories de seniors. Il y a les seniors robustes, c'est à peu près 60% des seniors. Il y a les seniors qui sont pré-fragiles ou fragiles, c'est à peu près 30%. Et les seniors qui sont dépendants, c'est dans les 9 à 10%. Donc ce qu'il faut, c'est comprimer ce chiffre, d'arriver que 5% de dépendants, et avoir de plus en plus de robustes. Et on peut le faire en adaptant notre système de santé, et on a des recommandations fortes de l'OMS. Comme l'OMS nous dit pour le Covid, vous portez des masques, vous lavez les mains. L'OMS nous dit, pour prévenir la dépendance, vous surveillez et monitorez vos fonctions en développant le programme ICOP.
Alors justement, le programme ICOP, alors je ne sais pas si on dit ICOP ou ICOP, c'est vous qui allez me le dire.
Comme on veut.
On dit comme on veut. Allez, va pour ICOP. Le programme ICOP, il entend retarder ou en tout cas prévenir les manifestations du vieillissement, en tout cas contribuer à être des vieux robustes, pardonnez-moi l'expression. Mmh. Qu'est-ce que c'est que cet outil ? Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Et puis peut-être aussi sa philosophie qu'on commence à comprendre.
Oui, alors tout à fait. On peut faire un parallélisme avec le Covid. Lors de la première vague du Covid, on a dit « Restez chez vous et quand ça ne va pas bien, vous allez à l'hôpital. » Avec malheureusement une mortalité très élevée. Maintenant, ce qu'on fait, on dit « Testez. » Et dès que quelqu'un est positif, on isole et on prend en charge tout. Pour la dépendance, c'est pareil. Pendant longtemps, on n'a pas fait grand-chose. Puis quand la personne était dépendante, il fallait qu'elle puisse aller dans une EHPAD. Alors que maintenant, ce qu'il faut faire, et ce que dit l'OMS aussi, c'est des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est pour ça qu'on en parle ici, elle dit il faut tester, et dès qu'il y a une perte de fonction, agir. Et l'OMS a validé un outil, qui est cet outil ICOP, qui permet en une dizaine de minutes d'évaluer les fonctions principales dont on a parlé tout à l'heure, que sont la vue, l'audition, la mémoire, le bien-être psychique, la nutrition et la mobilité. Je veux vous donner un exemple peut-être précis. Pour la mobilité, on demande à la personne, est-ce que vous êtes capable de vous lever 5 fois d'une chaise sans vous aider des bras en moins de 14 secondes ? Et si quelqu'un est capable de se lever d'une chaise sans céder des bras en moins de 14 secondes, elle a très peu de risques de perdre la mobilité. Si par contre elle n'est pas capable, elle a plus de risques de perdre la mobilité. À nous de comprendre pourquoi elle n'est pas capable et de voir comment restaurer cette fonction.
Alors cet outil ICOP Monitor dont on parle ensemble, hein, professeur Vélas, je rappelle à ceux qui nous rejoignent que vous êtes gériatre, responsable du Gérontopole au CHU de Toulouse et que vous avez développé une application qui entend prévenir les manifestations du vieillissement. Cette application, vous en parlez, elle s'appelle ICOP. Comment ça se passe ? On la télécharge, chacun peut la télécharger sur son téléphone mobile, c'est ça ?
Oui, alors on peut faire comme on veut. Alors, cette application, elle reprend ce test qui a été mis au point par l'OMS, qui reprend des questions qui ont été validées par les plus grands experts et qui peuvent être prédictifs d'une perte de fonction. Alors, on peut soit télécharger l'application à partir de son portable, et là, il y a deux possibilités. Soit c'est un professionnel de santé qui le fait, il coche professionnel de santé, soit c'est les seniors eux-mêmes qui le font. Mmh. Et c'est important de pouvoir le faire soi-même, et à ce moment, ils peuvent le remplir eux-mêmes ou se faire aider. On est ici dans une médecine qu'on appelle participative. Quand on est en prévention, ce n'est plus une médecine où c'est le médecin qui dit il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, etc. Maintenant, la médecine moderne, la médecine de demain, c'est une personne participative.
Je m'auto-évalue.
Et je participe moi-même à ma santé et à maintenir mes fonctions.
Je m'auto-évalue tous les jours ?
Non. Alors, il faut s'évaluer.
Je ne me prends pas le coup tous les matins.
Ouf. Tous les six mois. Donc, et ça prend 10 minutes, un quart d'heure pour vérifier ces quelques fonctions. Et s'il y a un problème, en parler à son médecin traitant.
le médecin traitant est compétent pour réagir. Si je viens le voir, j'ai téléchargé l'application, je m'évalue tous les 6 mois. Là, je m'aperçois que j'arrive pas à me lever comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que je fais?
Ben le médecin traitant est là tout à fait compétent, parce que si vous voulez, ces 6 fonctions de l'OMS, c'est regarder si un sujet a une perte de poids ou une perte d'appétit, et les médecins savent très bien la conduite à tenir devant une perte de poids ou d'appétit. C'est est-ce que j'ai un trouble de la vue ou de l'audition, ce que savent très bien faire aussi les médecins traitants, ou est-ce que je me sens déprimé. Les médecins traitants pourront alors confirmer la dépression ou non, voir comment aider la personne, etc. Donc si vous voulez, on retombe sur ses principales fonctions, et là on retombe sur des questions de médecine, mais dans lequel il faudra chercher des pathologies, mais aussi parfois autre chose, et c'est l'ensemble qui permet de maintenir les fonctions.
Et alors on va les redonner, ces fonctions, hein, la mobilité, la mémoire, la nutrition, l'humeur, la vue et l'audition. Professeur Vélas, je m'aperçois que j'ai un problème au niveau de l'audition. Je vais chez le médecin qui confirme que j'ai un problème, il se passe quoi après? Parce que si c'est juste pour m'apercevoir que oui, je suis bien en train de vieillir, ça va plutôt me saper le moral.
Non, parce que justement, le médecin traitant peut voir en fonction de ce trouble de l'audition s'il nécessite une visite avec un spécialiste, un ORL, ou s'il nécessite directement une évaluation par un audioprothésiste pour voir s'il faut mettre un appareil au bon moment. Pareil vis-à-vis de la mémoire.
On peut endiguer le processus?
Oui, on peut endiguer le processus. On peut endiguer le processus des pertes de fonction, bien évidemment, et d'autant plus qu'on le prend tôt et fonction les unes après les autres. Ce qui est difficile, on a longtemps travaillé sur la fragilité. Mais quand une personne est fragile, c'est-à-dire avant le stade de la dépendance, souvent c'est des sujets qui ont plus de 80 ans et qui ont perdu déjà 3 à 4 fonctions. Donc c'est difficile de rétablir ces 3 à 4 fonctions. C'est possible, mais c'est difficile. Par contre, si on prend un senior robuste, qu'on surveille les fonctions et qu'on rétablit les fonctions les unes après les autres, là c'est beaucoup plus facile.
Un senior robuste de quel âge du coup?
Ça peut être 60, 65, 70, 75 ans, 80 ans.
Donc ceux qui nous écoutent à partir de 60 ans peuvent se dire, tiens, ça m'intéresse, je vais aller télécharger l'application iCop Monitor. Vous avez une idée de combien vous pouvez faire baisser le nombre de dépendants grâce à cet outil?
Alors, le but de l'Organisation mondiale de la santé avec iCop, c'est de diminuer d'ici 2025 le nombre de dépendants dans le monde de 15 millions.
Ah oui.
Si on considère que la France, c'est le 100e des seniors, ça veut dire de diminuer de 150 000 en France, et donc en Occitanie, diminuer de 15 000. Alors il y a l'application qu'on peut sortir, mais il y a aussi un robot vocal, qui est un chatbox, oui. C'est-à-dire un site web dans lequel vous cliquez, et si on clique dans ce site web, vous avez une voix qui vous dit ce qu'il vous faut faire. Donc c'est un peu plus long, mais c'est parfois plus facile
pour
évaluer ses fonctions.
Alors depuis 5 mois, où est-ce qu'on en est, hein? Depuis 5 mois, je crois que l'iCop Monitor est disponible au grand public en Occitanie. La région est pilote, hein? Combien de personnes ont déjà été testées et avec quel retour d'expérience, hein?
Voilà, donc... Veiller en santé, c'est garder ses fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Pendant le confinement, on a arrêté pas mal de nos fonctions.
Bien
quelqu'un
sûr.
Qui ne conduit plus risque de ne plus conduire, quelqu'un qui ne va plus faire ses courses risque de ne plus faire ses courses. Donc avec l'Agence régionale de santé, on a pris la décision de lancer iCop Monitor dès le mois de mai après le confinement. Donc on l'a lancé dans un premier temps avec les professionnels de santé, surtout les infirmières libérales, les médecins généralistes, les soins premiers. Puis depuis à peine un mois, on a un outil maintenant d'auto-évaluation pour des seniors plus robustes qui peuvent s'évaluer eux-mêmes. Alors actuellement, on peut dire qu'on suit déjà 3000 seniors avec iCop Monitor. La moyenne d'âge est de 74 ans et 6% simplement ont leurs 6 fonctions intactes. Donc
ah
ça
oui.
prouve que c'est important d'agir plus tôt. Il faut savoir que ces patients, on les a recrutés surtout par les professionnels de santé. Donc c'est normal qu'il y avait des anomalies. Mais ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses entre 60 et 75 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il faut surveiller.
Et alors, il y a une question que peuvent se poser ceux qui nous écoutent. C'est un peu de méfiance par rapport à ce qui était les médecines et surtout aux données, personnelles. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça?
Alors ces données, il faut savoir que c'est des données qui sont... pas si sensible que ça, hein. On va surveiller le poids de quelqu'un, est-ce qu'elle perd de l'appétit, sa mobilité, mais ces données sont dans une base de santé sécurisée au sein du CHU.
Il y a une confidentialité.
Oui, et complètement confidentiel. Quand vous allez à l'hôpital, vos données sont informatisées et sécurisées. Et heureusement, parce que quand vous revenez, on peut les récupérer. Donc le but d'ACOP Monitor, c'est la même chose. Les données sont sécurisées au sein du CHU. Et puis, c'est important de les avoir mémorisées, parce que ce qui est important, c'est de suivre avec le temps. Comme je vous le disais, tous les 6 mois. Mm-hmm. Parce que le vieillissement, c'est un processus qui continue. Donc il faut qu'on puisse, à tout moment, récupérer une fonction. Surtout s'il arrive une pathologie. Parce que quand arrive une pathologie, là on est à risque de fragilité. Et il faut qu'on puisse guérir de cette pathologie tout en gardant nos fonctions. Et c'est là qu'on a une médecine qui est adaptée au vieillissement de la population et pas simplement centrée sur les pathologies.
Professeur Bruno Vélas, cette application dont on parle, hein, qui, je le répète, s'appelle ICOP Monitor, elle est testée prioritairement en Occitanie, car le gérontopole du CHU de Toulouse est centre collaborateur de l'OMS. Pour quelle raison ce lien particulier ?
Donc, si vous voulez, l'Organisation mondiale de la santé s'appuie sur un certain nombre de centres spécialisés. Par exemple, sur les vaccinations, il s'appuie sur des centres qui travaillent sur les pathologies infectieuses. Et sur le vieillissement, il s'appuie sur un certain nombre de centres. Et Toulouse est le centre de référence, notamment sur la fragilité, la formation en gériatrie et la recherche.
Centre de référence, centre d'excellence, du coup ?
De l'Organisation mondiale de la santé. Oui, c'est avec eux qu'on travaille et l'OMS labellise les centres qui leur semblent avec la plus grande expertise.
Et ben voilà, on va terminer sur ce cocorico. Un grand merci, professeur Bruno Vélas, d'être venu nous présenter vos travaux à travers cet outil ICOP Monitor. Tout le monde peut le télécharger, il suffit de taper ICOP Monitor. Vous m'avez dit qu'il y avait un numéro de téléphone. Évidemment, on pense à ceux pour qui le numérique n'est pas totalement la seconde langue. 05 61 77 70 47. 05 61 77 70 47. Je remercie Camille Faux du Gérontopole qui m'a aidé à préparer cet entretien. Un grand merci à vous.
Merci.
Présence.
Que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans à jouer avec le vent comme dans mes rêves d'enfant, comme avant.
À Saint-Gaudens, 94.1.
Bonjour et bienvenue sur Radio Présence. Je suis actuellement avec Imanol Hernandez. Bonjour Imanol. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que vous avez écrit sur votre petite fiche dans la sélection Téléa.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Florian, comment allez-vous?
Eh bien très bien, mais ça ira mieux ce soir. Je serai sur le canapé avec le chat à ma gauche à manger et en train de regarder peut-être un film que vous allez présenter maintenant.
Exactement, ce mercredi 11 novembre, jour de fête nationale, à 21h, je vous propose Comment tuer votre boss 2.
Ah, c'est pas un message.
Ne vous inquiétez pas, c'est pas un message subliminal contre vous. Dale, Kurt et Nick ne veulent plus subir les diktats d'un patron et décident de monter leur propre entreprise. Les trois hommes mettent leur avenir entre les mains du milliardaire Bear Hanson qui leur promet une belle commande. Les compères investissent aussitôt avant de comprendre qu'ils ont été dupés par Hanson. Ils décident alors de kidnapper son fils et partent demander conseil à Dave Arkend, toujours en prison, qui les envoie balader. Ils s'adressent ensuite à Dean M.F. Jones qui leur fait des étranges suggestions. Une suite tout aussi potache que son modèle qui fonctionne grâce à plusieurs scènes drôles et rythmées. Ça vous dit quelque chose comment tuer son boss, Florian?
Oui, et en plus, il n'y a que des bons acteurs. Il y a Jason Bateman qui joue avec Will Smith dans le super-héros Hancock ou encore Jennifer Aniston dans Friends qui est la belle coloc. Voilà, donc du coup, on va se régaler ce soir.
On va se régaler, surtout qu'on a des racines et des ailes ce soir à 21h.
Un petit peu de nature.
Un petit peu de nature, un petit peu d'histoire et de patrimoine, parce que c'est à côté de chez nous, c'est pas loin, c'est la cité épiscopale d'Albi qui célèbre son 10e anniversaire au classement mondial de l'UNESCO. Carole Geisler nous amène au sommet de la cathédrale Saint-Cécile, la plus grande cathédrale de briques au monde, puis dans le palais de la Berbye qui abrite le musée Toulouse-Lautrec. Albi est le point de départ du voyage. Au sommaire, un fil du Tarn, une terre de bâtisseurs. Ce sont deux beaux reportages qui donnent l'occasion de faire des rencontres avec des personnalités attachantes qui est proposé par France 3 ce soir. Vous aimez le foot, Laurien ?
Ah, j'adore le foot, j'adore l'équipe de France et je suppose que vous allez nous parler de l'équipe des Bleus.
France-Finlande.
Exactement.
Afin de préparer le choc face au Portugal le 14 novembre, en phase de poule de la Ligue des Nations, Olivier Giroud et les Bleus profitent de ce match amical contre la Finlande pour peaufiner leur réglage. Didier Deschamps, le sélectionneur des champions du monde, devrait faire tourner son effectif, une rotation qui pourrait profiter à Wissam Ben Yedder et Anthony Martial sur le front de l'attaque. En défense, Bernard Mendy ou encore Clément Lenglet tenteront de bouleverser la hiérarchie. Ce soir, il s'agit de la 9e confrontation entre Français et Finlandais. Les tricolores restent sur 8 victoires consécutives. La dernière confrontation remonte au 15 octobre 2013. Un succès 3-0 au Stade de France en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014.
Et oui, on pourra retrouver le fils d'un grand. C'est le fils de Lilian Thuram qui joue. C'est Marcus Thuram. Voilà, on va peut-être le voir fouler la pelouse. Merci beaucoup, Imanol.
C'était votre agenda télé du soir. Un très très bon mercredi à toutes et à tous.
Merci, Imanol Hernandez. À demain, toujours à la même heure pour la sélection télé.
Radio Présence à Auch, 89.6.
La météo.
Pour cet après-midi, il y aura des éclaircies dans l'Occitanie, 16 degrés en moyenne. Demain matin, 11 degrés pour le Lot et dans le Gers, 13 sur la place du Capitole à Toulouse et 14 dans les Hautes-Pyrénées. L'après-midi, des lunettes de soleil seront de rigueur si vous travaillez dans votre jardin. Grand soleil dans l'Occitanie, 17 auprès du boulevard Gambetta à Cahors, 18 à côté de la grotte de Lourdes et dans la Haute-Garonne.
Avec Patrice de Planquette.
Bonjour à tous. L'Amérique sous toutes ses fractures, titrait hier un journal français. Il énumérait les fractures sociologiques qui cisaillent depuis longtemps, mais de plus en plus, la société américaine, et les fractures nouvelles, idéologiques, qui la cisaillent depuis peu. Fracture encore aggravée par les 4 dernières années où le président Trump se sera acharné à envenimer les choses, convaincu que la politique du pire était la meilleure pour sa réélection. On voit aujourd'hui le produit de ce calcul. Vous me direz que l'affrontement des courants d'opinion est le ressort des démocraties depuis toujours. C'est indiscutable. Mais aujourd'hui, ça n'a plus le même sens. Le climat des sociétés occidentales a changé. Il ne s'agit plus seulement d'une concurrence entre des partis politiques interprétant différemment les mêmes réalités. Maintenant, il s'agit d'un affrontement aveugle, donc implacable, entre des groupes passionnels, chacun d'eux enfermé dans son propre monde imaginaire, un monde sans rapport avec le monde du groupe ennemi. Entre de tels groupes, non seulement le dialogue est impossible, mais ils n'ont même plus de sujet de débat commun. Ils ne voient pas la même réalité. Ils ne sont pas d'accord sur sa simple existence. Ainsi, le coronavirus. Pour les partisans de Donald Trump, il existe à peine le coronavirus. En tout cas, il ne mérite pas qu'on s'en soucie. Sinon, pour en accuser les Chinois, qui d'ailleurs ont aussi inventé le réchauffement climatique, tout ça étant, paraît-il, un vaste complot des ennemis de l'Amérique pour l'amener au communisme, qui est, comme chacun sait, le grand danger mondial en 2020. Ce phénomène de délire collectif est né aux États-Unis, à droite et à gauche. À droite, au moment des débuts de la guerre froide, à l'époque où le cinéma de Hollywood répandait ce genre de psychose, et à gauche, à partir des années 1980, dans les universités, où s'inventait l'idéologie communautariste, remplaçant l'intérêt général par l'affrontement de toutes les différences. Puis les deux délires ont fusionné et la scène publique est devenue le chaos. L'Amérique a exporté ensuite ce virus-là. En France, par exemple, les nouvelles théories de la guerre entre races sont maintenant enseignées en Sorbonne et considérées comme progressistes. Et notre classe politique a l'air de trouver ça normal. C'est une spirale de la déraison. La question est, comment en sortir ? Très vaste programme. Le fond du problème, c'est que depuis plusieurs dizaines d'années, le politique s'est laissé remplacer par le marketing. Et dans le marketing, le vrai et le faux ne comptent pas. Ce qui compte, c'est le buzz, c'est-à-dire le tapage pour vendre. Et c'est de cela qu'il faut sortir. À la semaine prochaine.
Radio Présence à Luchon, 94 FM.
pourtant convaincu. Tu ne sais pas si demain tu seras en vie pour prier au monde entier que Jésus est ressuscité. Il vit à jamais. Oui, chante et danse. Il vit à jamais. Les stigmates de il vit à jamais. Jésus vit à jamais. Oui, chante.
Présence à Bagnères de Bigorre, 88.9.
Dans la vallée de la Rance, 93.1.
L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je ?» Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ?» Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu.
La question de Jésus que nous venons d'entendre nous concerne personnellement. À chacune et chacun d'entre nous, il nous redemande, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je ?» On en dit tellement sur Jésus, à tel point que me revient à la pensée son autre questionnement. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, en clair, lorsque le Christ viendra dans sa gloire pour juger le monde, trouvera-t-il la foi dans notre cœur? Qu'est-ce que croire ou avoir la foi? C'est accueillir Jésus comme Fils de Dieu, Dieu et Sauveur. Mais c'est aussi croire en sa parole, l'écouter, la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Souvenons-nous, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, que nous avons expulsé les démons ?» que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Cela nous invite à relire en Saint Matthieu le chapitre 7. Contre le mal, c'est rejeter Dieu, ne pas l'écouter, ne pas faire à sa volonté, ne pas l'aimer ou ne pas nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire ne pas vivre en enfant de Dieu. Et puis Jésus institue Pierre, à qui il confie son Église et par lui à ses successeurs, donc aujourd'hui pour nous le pape François. Leur autorité vient du Christ, lui seul, le rocher, la tête de l'Église. Mais il se donne un représentant sur la terre pour continuer à conduire son peuple. Et Jésus lui donne force et courage. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur mon Église. Avec Pierre et ses successeurs, le Christ envoie son Église dans le monde entier avec la force de l'Esprit Saint promis. Vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, Jésus accompagne le choix de Pierre et de ses successeurs avec une autre faculté. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre, délié, sera délié dans les cieux. En cela, le Christ confirme une autre de ses paroles. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Sous-entendu, n'ayez pas peur, ceux qui m'ont fait, ils vous le feront. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Ainsi, par la voix du pape et de l'Église, c'est lui, le Christ, qui continue à nous guider, à nous parler, à nous enseigner et à conduire son peuple. Alors, nous redemande Jésus, « Pour vous, qui suis-je ?» Et avec la Vierge Marie, qui à Cana nous a dit « Tout ce qu'il vous dira, faites-le, sachant redire, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. »
Dans la Haute-Ariège, 92.7.
Thank you. d'amour. C'est un sujet si délicat. Qu'on soit deux au premier jour, le cœur noué ou bien soldat. On ne peut parler d'amour, c'est un sujet inaccessible. Les mots bleus vieillissent toujours. Soyons prêts pour l'âme sensible. Je ne suis rien sur l'échiquier, qu'un vulgaire pion face à la tour. Mais je vois bien l'humanité toucher le fond par manque d'amour, par manque d'amour. On ne peut parler d'amour, c'est un sujet bien trop fragile.
Sarrazin, 93.3.
Allez, quelques secondes avant 13h pour cet après-midi. Il y aura des éclaircies dans l'Occitanie, 16 degrés en moyenne. Demain matin, 11 pour le Lot et dans le Gers, 13 sur la place du Capitole à Toulouse et 14 dans les Hautes-Pyrénées. L'après-midi, lunettes de soleil oblige si vous travaillez dans votre jardin. Grand soleil dans l'Occitanie, 17 près du boulevard Gambetta à Cahors, 18 à côté de la Grotte de Lourdes et dans la Haute-Garonne. Je vous laisse avec Radio Vatican, votre journal international en direct de Rome. Je vous dis à demain.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Radio Vatican.
Audience générale ce matin du pape François qui a poursuivi son cycle de catéchèse sur la prière. Le Saint-Père est revenu sur l'importance d'une prière continue.